corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose un podcast consacré à la maxillectomie. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le docteur Stéphane Temam, médecin ORL et chirurgien cervico-facial, chef du service de cancérologie cervico-faciale de Gustave Roussy, est avec nous. Bonjour docteur Temam.
Bonjour.
La maxillectomie, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, la maxillectomie, ça correspond à enlever l'os maxillaire, qui est un des os présents au niveau de la face, qui a la forme d'un cube situé entre la bouche et l'œil. C'est un cube rempli d'air et sur lequel repose le visage et l'œil.
Quelles sont ces indications, c'est-à-dire dans quel cas la maxillectomie est-elle possible ou non ?
La maxillectomie est un acte chirurgical qui est réalisé rarement. C'est quelques centaines de cas opérés par an en France, avec dans la très très grande majorité des cas, des pathologies tumorales cancéreuses. Dans quelques cas, on a besoin de faire des maxillectomies pour des tumeurs bénignes ou des pathologies vasculaires, mais la grande majorité des patients ont un cancer développé au niveau du massif facial.
Est-ce qu'on peut parler des modalités de cette intervention ?
Alors, c'est la modalité de prise en charge du cancer, c'est-à-dire une chirurgie qui doit pouvoir enlever le cancer avec des marges de sécurité jugées adaptées à l'agressivité du cancer. Donc c'était pas simplement enlever la boule formée par le cancer, mais enlever les structures autour pour qu'on ne laisse pas des cellules cancéreuses autour de la cavité opératoire. Donc ça veut dire que si on a l'impression sur le bilan qui est fait avant l'intervention que la tumeur est trop avancée, l'intervention n'est pas utile. La chirurgie n'est utile que si on a l'impression qu'on va tout enlever.
À quel type de tumeur êtes-vous confronté en tant que chirurgien ?
Alors, au niveau du massif facial, c'est des tumeurs qui se développent dans des cavités. Donc, c'est souvent des tumeurs qui entraînent très peu de signes, très peu de symptômes. Et dans la majorité des cas, c'est lorsque la maladie a pris beaucoup d'ampleur, donc des tumeurs relativement volumineuses, que les gens consultent et qu'on fait le diagnostic le plus souvent soit sur une boule qui est apparente dans la bouche, dans le nez ou sur le visage, ou sur des douleurs ou des saignements qui amènent à faire des examens radiologiques, et à ce moment-là on voit la tumeur. Avant de pouvoir faire le geste chirurgical, il faut un diagnostic, et le diagnostic il doit être fait par des biopsies, c'est-à-dire qu'on va prendre un tout petit morceau de cette tumeur, soit par la bouche, soit par le nez, et on va le faire analyser, et on va nous dire à ce moment-là c'est une tumeur bénigne ou c'est une tumeur maligne, et quel type de cancer ça correspond, quelle est son agressivité. Et c'est qu'avec les éléments du bilan radiologique, un diagnostic et un bilan qui va faire l'évaluation de la globalité de l'état du corps, qu'on va pouvoir ensuite, lors de consultations pluridisciplinaires, où il y a plusieurs docteurs en même temps, qu'on va dire, voilà, votre maladie, elle nécessite un acte chirurgical de type maxillectomie, dont il y a différentes variantes.
Pour le patient, quels sont les risques de cette intervention ?
Alors, les risques de l'acte chirurgical va dépendre de ce qu'il va falloir enlever et comment on va pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est déterminé par le bilan préopératoire. Et on va dire, voilà, la tumeur, elle est située dans cette région du maxillaire au niveau du visage. Ça peut être dans la partie basse, ça peut être dans la partie haute, ça peut être dans la partie profonde, en arrière du sinus. Et en fonction de la localisation, ben, l'acte chirurgical va être différent. La voie d'abord, c'est-à-dire comment on va accéder à ce maxillaire, peut varier. Donc, les risques et les conséquences dépendent exactement de la modalité complète de cette intervention chirurgicale.
En moyenne, les interventions durent combien de temps ?
Alors, c'est des interventions, comme je l'ai dit, qui sont rares, mais qui sont le plus souvent complexes dans leur réalisation. C'est pour ça qu'elles relèvent dans la majorité des cas de prise en charge dans des centres experts pour essayer de regrouper les cas et d'augmenter l'expertise des chirurgiens qui les prennent en charge. Il y a plusieurs temps opératoires au moment de la chirurgie, c'est ça qui va déterminer la durée complète de l'acte chirurgical. Il y a un temps d'abord du maxillaire. Le maxillaire n'est pas apparent, il est situé dans la profondeur de la face. Et donc, il faut accéder soit par une cicatrice à l'intérieur de la bouche, soit par l'intérieur du nez, soit on est obligé de faire une cicatrice au niveau du visage qui va permettre, en tournant autour du nez, en coupant la lèvre, de lever la peau du visage et d'accéder à cette région maxillaire. Ensuite, on enlève la tumeur qui est dans cette région du maxillaire, mais qui peut s'étendre vers les organes autour. Il y a la région des sinus entre les deux yeux qu'on appelle l'ethmoïde. Il y a la région de la pommette qu'on appelle l'os malaire. Il y a bien sûr la cavité de l'œil, de l'orbite. Et puis, il y a les régions encore plus profondes et postérieures qui viennent au contact du crâne et ensuite du cerveau. Et donc, en fonction de ce qu'on va décider d'enlever, l'intervention, elle peut durer entre 3 heures et 8 heures pour faire uniquement la chirurgie où on enlève le cancer. Dans ces chirurgies du massif facial, il y a ensuite la discussion de savoir est-ce que on reconstruit ce qu'on enlève, est-ce qu'il y a besoin de faire une reconstruction avec un lambeau, ou si on peut utiliser les tissus locaux, ou alors quelques cas où on n'a pas besoin, on n'a pas la possibilité de reconstruire. Et donc là, on n'a que le temps d'exérèse, on n'a pas le temps de reconstruction. Quand on additionne les temps d'exérèse, de chirurgie où on enlève la tumeur et la chirurgie de reconstruction, là c'est des actes chirurgicaux très longs qui peuvent durer une dizaine d'heures dans leur réalisation.
Vous parliez du lambeau, quel est le risque de nécrose du lambeau ?
Alors le lambeau, ça correspond à une reconstruction pour reconstruire donc la cavité d'exérèse qui a été créée pour enlever la tumeur. Le lambeau n'est pas obligatoire. Le lambeau, il y en a différents types. Il y a des lambeaux locaux, c'est-à-dire qu'on va prendre autour de la région qui a été opérée, au niveau de la joue, au niveau d'un muscle du crâne, autour du crâne. Mais en fait, le plus souvent, la reconstruction se fait avec un lambeau qui est pris sur un autre endroit du corps, à distance de la face. Ça peut être, et le plus souvent, un muscle et de l'os qui vont être pris dans le dos, au niveau de la région dorsale, et de l'os de l'omoplate. Et on va prélever ce lambeau avec une artère, une veine, et on va venir se brancher sur les artères et la veine de la région du cou et de la face, et on va reconformer ce qui a été prélevé dans le dos à la forme de ce qu'on veut reconstruire au niveau de la bouche et du visage. Et en fait, ce lambeau, on va faire des micro-anastomoses entre une artère et une veine, et ces micro-anastomoses peuvent se boucher dans les jours qui suivent, dans les heures et dans les jours qui suivent l'intervention, et entraîner une nécrose. Le taux de nécrose dépend de la complexité de la reconstruction réalisée et de l'expertise également de l'équipe qui réalise la reconstruction, et enfin de critères qui sont de critères liés au patient. Plus le patient va être fragile, avoir des comorbidités, comme par exemple un âge avancé, plus le risque de nécrose du lambeau est important. Et donc les décisions sur les modalités de la reconstruction doivent dépendre de ces risques.
Suite à une maxillectomie, est-ce qu'il y a des douleurs en post-opératoire ?
Alors c'est des chirurgies qui sont inconfortables, qui peuvent nécessiter, surtout quand on fait des reconstructions complexes, une trachéotomie, c'est-à-dire que on n'a pas la possibilité de respirer pendant quelques jours par les voies naturelles, et donc on a une ouverture de la trachée à la partie basse du cou de façon totalement transitoire de quelques jours, et donc ça, la trachéotomie n'est pas douloureuse mais est très inconfortable. La chirurgie au niveau de la face, le plus souvent, entraîne la section des nerfs de la sensibilité, et donc c'est des chirurgies qui sont peu douloureuses au niveau de la face. En revanche, les patients peuvent avoir besoin de beaucoup de médicaments contre la douleur sur la zone de prélèvement du lambeau, qui peut être une zone de douleur importante, mais on prévient ces douleurs par différentes techniques chirurgicales et techniques d'anesthésie qui sont poursuivies pendant les jours qui suivent l'intervention.
Que ce soit facial ou optique, quels sont les risques immédiats d'atteinte des nerfs ?
Alors, il y a des risques qui sont attendus, c'est-à-dire des conséquences directes de l'acte chirurgical en fonction de la localisation du cancer. Comme je vous ai dit, le cancer, il n'a d'intérêt d'être opéré que si on va enlever largement le cancer. Et quand on enlève avec ses marges de sécurité le cancer, ben on peut enlever des structures anatomiques importantes et notamment des nerfs de la sensibilité, rarement au niveau maxillaire des nerfs de la motricité du visage. Ça, c'est rare qu'on ait une altération de la motricité, mais parfois, si la tumeur vient jusqu'à sous la peau, on est obligé d'enlever certains muscles qui arrivent sur la peau du visage, ce qui peut donner un visage moins mobile et moins expressif.
Nous parlerons dans un second podcast de toutes les conséquences de l'intervention à long terme. Après l'intervention, justement, le visage est souvent tuméfié, gonflé. En combien de temps retrouve-t-il un aspect moins inflammatoire ?
Alors, effectivement, comme classiquement je le dis à mes patients, et c'est comme s'ils sortaient d'un match de boxe, parce que au niveau du visage, dès qu'on opère et qu'on fait des décollements, et donc pour arriver au maxillaire, eh ben, on a besoin de décoller la région du visage et de la peau. Eh ben, tout de suite derrière, et notamment autour de l'œil, il y a des œdèmes et des ecchymoses qui peuvent s'étendre sur les jours qui suivent l'intervention. Donc le gonflement peut être effectivement important et impressionnant après ces chirurgies.
Il y a un aspect psychologique important à prendre en compte. Comment faire pour être bien préparé ?
Alors effectivement, c'est des chirurgies qui ont lieu sur le visage, et donc on parlait du visage tuméfié, on parlait des cicatrices. Il peut y avoir effectivement des conséquences psychologiques immédiates, et c'est les explications préopératoires et la prise en charge du côté ce qu'on appelle onco-psychologique, avec des personnes habituées à gérer ces difficultés en préopératoire et en post-opératoire, qui vont aider les patients. Mais c'est d'abord les explications, la préparation, se dire voilà ce qui va se passer, comment ça va se passer pendant, après et à distance.
Justement, pendant cette période, est-ce que vous conseillez d'attendre un peu avant de prendre un miroir et de se regarder ou est-ce qu'au contraire, il faut le faire rapidement ?
Alors après, la psychologie des patients et des équipes est variable et je pense pas qu'on puisse donner des recommandations générales. Il faut s'adapter. Il y a des patients qui sont demandeurs de voir leur visage très vite. Nous, on essaye d'y aller progressivement pour qu'il n'y ait pas de traumatisme qui reste trop important dans les conséquences de l'acte réalisé.
Combien de temps cet aspect perdure ?
Alors, effectivement, il y a les conséquences immédiates de l'acte. L'œdème au niveau du visage va régresser en environ 2-3 semaines, mais jamais complètement. D'autant que dans le traitement du cancer au niveau du massif facial qui justifie des maxillectomies, il y a souvent, après la chirurgie, besoin de faire un deuxième traitement qu'on appelle la radiothérapie, les rayons. Et la radiothérapie va créer ce qu'on appelle un lymphœdème qui va apparaître pendant et qui persistera après. Et donc dans la prise en charge des séquelles, il y aura la gestion de cet œdème chronique générée par l'addition des deux traitements.
Comment se passe l'alimentation après une maxillectomie ? Est-ce qu'il y a une sonde nasogastrique, une sonde de gastrostomie ? Pendant combien de temps ?
La plupart des maxillectomies nécessitent le passage par la bouche et donc nécessitent de faire des cicatrices à l'intérieur de la bouche. Et donc quand il y a des cicatrices et qu'il y a des reconstructions, des coutures à l'intérieur de la bouche, on ne recommande pas de remanger tout de suite pour ne pas abîmer ces coutures. Et donc, il y a fréquemment besoin d'une sonde nasogastrique qui passe par le nez, qui va dans l'estomac, qui va permettre une alimentation, en plus de l'alimentation intraveineuse, par les veines en perfusion. Et c'est la conjonction des deux qui va permettre de s'alimenter pendant la période d'hospitalisation. Il est très rare que le patient ait besoin d'avoir encore une sonde à la sortie de l'hôpital. En revanche, comme la chirurgie se fait dans la bouche, qu'elle est au niveau du palais, il y a souvent nécessité d'enlever des dents. Et donc la région qui a été opérée, la reconstruction dentaire, est exceptionnellement faite dans le même temps. Et donc il faut adapter l'alimentation au déficit dentaire qui a été généré avec souvent une alimentation pendant les premiers temps qui sera mixée et pas solide.
Merci beaucoup docteur Stéphane Temam d'avoir répondu aux questions de l'association Corasso. Je rappelle que vous êtes médecin ORL et chirurgien cervico-facial, chef du service de cancérologie cervico-faciale de Gustave Roussy. On se retrouve pour un second podcast consacré cette fois aux conséquences de la maxillectomie. À très vite.
Au revoir.
Corasso.org.